Donc pendant ce temps de parole, cette lecture, l'invitation est la même qu'hier soir et ce matin. C'est plus une invitation à l'expérimentation, à l'expérience, plutôt qu'à la réflexion. De voir si ce qui va être dit peut être appréhendé dans le champ du ressenti. Et pour continuer, pour rappeler ce que l'on a un petit peu commencé à toucher du doigt hier soir, hier après-midi, on a commencé à parler sur quoi repose en fait cette identité qui est construite, cette identité qui est basée sur l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes à travers nos pensées. Nous avons évoqué peut-être deux composantes. La première, c'est que cette identité construite repose sur la croyance que nous sommes séparés, séparés du monde, séparés de l'extérieur, d'une certaine manière aussi séparés de nous-mêmes. Et la deuxième qui va de pair, c'est cette notion, cette sensation que nous existons de manière autonome et indépendamment du reste. Et on a commencé à voir que ça, c'était vraiment ces deux croyances très enracinées étaient la source de beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, dans cette continuité, j'aimerais tenter, tout du moins, d'apporter un éclairage sur le fait que cette identité construite, ce moi-je, a besoin pour exister de la notion du temps qui est linéaire. C'est-à-dire que pour exister, il a besoin de la présence d'un passé, d'un présent et d'un futur. Alors ça, on va ouvrir là-dessus, on va approcher ça sous différents angles. Mais peut-être juste pour remettre ça dans le contexte de l'exemple de ce matin. Cet exemple avec l'accident avec le chevreuil. Donc, il y a un événement qui se passe, il y a une personne qui vit l'événement. De cet événement naît une certaine forme d'émotion. J'ai parlé de la culpabilité, et puis bon, la peur et tout ce qui s'ensuit. Hein? Toutes ces émotions émergent après qu'un événement se soit passé, d'accord? Et comme ce sont des émotions qui sont difficiles, elles sont difficiles à rencontrer. Je ne veux pas les rencontrer. Elles me font peur, elles sont trop douloureuses. Du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je me vis, je m'expérimente comme un problème qui a besoin d'être solutionné. C'est-à-dire que ce que me renvoie cette émotion si intense et si désagréable renvoie à mon moi-je une image dont je ne veux pas, une identité dont je ne veux pas. Donc je me considère comme un problème. Et si je m'appréhende dans l'instant comme un problème, forcément je vais créer un futur, tenter de créer un futur dans lequel je vais solutionner le problème de moi. On va continuer à débroussailler le terrain, ne vous inquiétez pas. On va faire des petits exercices. Si je vous demande d'amener un souvenir à la conscience, un souvenir qui vous appartient, ce souvenir, il va émerger sous forme de pensée, il va émerger sous forme soit d'image, comme je le disais ce matin, soit sous forme de narratif dans la tête, des mots. On voit peut-être des couleurs, on voit des images, on se raconte qu'on a vécu ci, qu'on a vécu ça, que lui, il était comme ci, comme ça. Et de noter que ce qui rend vivant ce souvenir, c'est le fait de penser. et que si je pense à un souvenir, je ne peux expérimenter ce souvenir d'un événement passé qu'ici et maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, on va imaginer une situation future, quelque chose que l'on souhaiterait vivre, que ce soit en sortant de retraite, que ce soit la prochaine assise, que ce soit demain. Je fais appel à mon imagination, je fais appel à la pensée pour créer, imaginer quelque chose. Ça, c'est en train de se faire maintenant. C'est-à-dire que je ne peux expérimenter le futur qu'à travers ma faculté de penser. Mais que ce futur, tout autant que ce passé, le passé, il n'existe plus, il ne peut exister qu'à travers le fait que je puisse y penser ici, maintenant. Le futur, il n'existe pas encore. Je peux l'imaginer, je peux le rendre extrêmement vivant, mais ce que je vais rendre vivant, je vais le rendre vivant à travers ma faculté de penser qui se produit quand? Ici, maintenant. Et vous voyez, en fait, de faire ce simple exercice, ça vient un petit peu titiller notre idée qu'il y avait un avant, qu'il y a un maintenant et qu'il y a un après. Parce que quand on fait cet exercice, on se rend compte, encore une fois, que le passé tout autant que le futur n'existe pas. Sauf dans ma réalité ici maintenant, qui est créée à travers cette magnifique faculté que nous avons de pouvoir penser, de pouvoir nous souvenir, de pouvoir imaginer, de pouvoir créer. Donc il n'y a absolument rien de négatif là-dedans. Mais c'est simplement pour pointer du doigt que là, dans cette réalité-là, on commence peut-être à se rendre compte de la différence qu'il y a quand je me sens exister et que j'ai besoin pour que cette identité construite existe, elle a besoin de fabriquer un passé et de fabriquer un futur. D'une certaine manière, moi je vous invite vraiment à regarder si en fait vous n'êtes pas, on n'est pas tous toujours en train de nous demander si simplement qui est-ce que j'étais avant? Qui est-ce que je suis maintenant? Qui est-ce que je vais devenir? Et ça revient à un exemple qui a été donné ce matin sur le fait de s'inquiéter pour l'avenir. Et cette identité construite pour exister, elle a besoin d'être vivante sur cette ligne de temps qui est linéaire, passé, présent, futur. Maintenant, on va revenir au souvenir. Vous allez voir, je vais tourner autour de la même chose sans arrêt. Je vous demande de me pardonner si je me répète, mais c'est parce que c'est peut-être pas toujours évident, ça. Donc maintenant, on va retourner dans le souvenir. Je vous demande de vous reconnecter avec votre souvenir. L'histoire, les images, ce qu'on ressent peut-être aussi dans ce souvenir. Et maintenant, de vous poser la question, où est-ce que vous êtes allé? Où est-ce que je suis allé? Est-ce qu'à l'évocation de ce souvenir, je suis allé quelque part? Ou alors, en fait, je suis toujours resté ici? Donc peut-être qu'on pourra poser la conclusion que de penser à une autre époque, apparemment ne nous transporte pas dans ce lieu-là. Et que, au fond, dans chaque souvenir, dans chaque événement passé, hein, on reste ici. Alors ça peut être très théorique, hein, ou ça peut amener de la confusion, et si ça a amené de la confusion, moi je suis contente, c'est que ça fonctionne. Si ça amène plein de pensées, c'est pas grave. Pareil si on se transporte dans le futur, j'insiste. Quand j'évoque un potentiel futur, quelque chose que j'aimerais vivre, où est-ce que je suis allée? Est-ce que je suis véritablement allée dans cet endroit? Maintenant, on va faire autre chose. Simplement de revenir à cette sensation première. On n'a même pas besoin de sentir le sol sous son derrière, etc. Ou de revenir au contact du souffle ou de l'écoute. Simplement de revenir à cette sensation extrêmement basique. Je suis ici maintenant, je suis en vie. Essayez de voir si vous pouvez connecter ça. C'est tout simple. C'est tellement simple, ça ne demande même pas d'effort. Je suis là. On sent qu'on est là. Se poser la question, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Quelle est la texture là, de cette sensation d'être là? Ça va peut-être nous faire prendre conscience de ce qu'on n'est pas non plus. Quand il y a juste cette sensation d'exister. Et s'il y a une chose qui est sûre à ce moment-là, dans cet espace-là, c'est que ce n'est pas une pensée. Que là, dans cette sensation d'être vivant ici maintenant, il n'y a absolument rien d'imaginé. Il y a juste ça. Et ça, c'est toujours là. Ça ne nous quitte jamais. Du fait qu'on soit en vie, c'est là. Et maintenant, je vous invite à peut-être regarder la différence de texture quand on est dans cet état-là, de simplement être là, et quand on part dans un souvenir ou quand on se projette dans le futur, hein, et qu'on part dans le monde des pensées. Et juste d'essayer d'aller au contact des sensations de ces deux espaces. Puis à votre rythme de revenir à cette sensation simplement d'être là. Et de véritablement prendre conscience que pour être au contact du fait d'exister, j'ai pas besoin de penser, j'ai pas besoin d'essayer de maintenir quelque chose en utilisant la pensée. enfin, encore une fois, ce sont des pointeurs. C'est à vous de faire l'expérience et d'en tirer vraiment vos propres conclusions. Peut-être vous trouverez que je raconte n'importe quoi. C'est de voir que quand on est dans cette présence, est-ce que je ne constate pas qu'il n'y a absolument rien qui n'est produit? Je ne suis pas en train de faire quoi que ce soit dans cet espace-là. Dans une pensée, généralement, je suis en action. Je fais quelque chose. Je vais dans le passé. Je vais dans le futur. Quand je suis juste dans cette sensation d'exister, vous avez vu, ça, sincèrement, ça ne demande pas d'énergie. Ça ne demande pas d'effort. Il y a de l'effort simplement quand on imagine qu'on n'est pas là, mais ça ne peut même pas ce qu'on oublie. On est déjà là. Ça fait rire, hein? Qu'est-ce qu'on se complique la vie? Maintenant, on peut poser la question, bien qu'elle était déjà implicite. Est-ce qu'au fond, j'ai jamais quitté cet espace-là? Est-ce que cet espace-là m'a jamais quitté? Peu importe comment vous voulez le formuler, comment ça vous parle. Est-ce que cet espace-là, d'être en vie, à un moment donné ou à un autre, il n'était plus là? Et ce qui est intéressant, c'est quand en posant cette question, on va probablement essayer de faire référence à quelque chose. Un souvenir. Mais si, mais j'étais là la semaine dernière. Si, 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 j'étais là-bas. Et de voir que là, tout de suite, pouf, on retourne dans ce qui est construit. On retourne sur cette ligne, passé, présent. Une chose intéressante par rapport à cette idée que l'on se fait de soi, ce soi construit, on a l'illusion que quand ce soi est aux commandes, on contrôle les choses. On est aux commandes parce qu'on a l'impression de produire quelque chose, de faire quelque chose. Mais en fait, quand on part dans un souvenir et quand on se projette dans l'avenir, on se rend compte que c'est quelque chose qui reste au niveau de la tête, mais en rien concrètement, ça va influencer le passé ou ça va influencer l'avenir. Quoi qu'il y ait des gens qui parleront de pensées positives et concrètes, etc. Mais bon, j'entrerai pas dans ces considérations-là. Et du coup, on en arrive à cette histoire de temps. Qu'est-ce que le temps quand il n'y a pas de pensée? Qu'est-ce que le temps, pour revenir à cet exemple d'hier, qu'est-ce que le temps lorsqu'il n'y a que la rencontre de la conscience visuelle et de ceci? Qu'est-ce que le temps? Quand il n'y a rien qui se rajoute à cette expérience. Et où le passé, et où le futur? Peut-être on pourrait se poser la question de savoir si finalement, pourquoi on a tant besoin de créer un passé, un présent, un futur, de se donner l'illusion, hein, pour exister, qu'on a besoin de ça. Est-ce qu'il n'y a pas là une certaine forme simplement d'habitude, d'addiction? Une addiction parce que simplement ce soi construit a besoin de cette linéarité pour pouvoir toujours se prouver à lui-même qu'il existe. Ce que j'ai dit tout à l'heure, qui j'étais, qui je suis, qui je vais être, hein, si je perds mon boulot, mais qui je vais être. Si je perds mon mari, qui je vais être. Je prends des exemples peut-être un peu excessifs, mais c'est pour bien montrer la réalité de ce qui se passe. Sur vraiment sur quoi est construit ce soi. Et je parle vraiment d'une identité construite et je ne la remets pas en question. Hein. Je veux dire, cette identité nous permet de fonctionner merveilleusement dans la vie de tous les jours. Hein. Ne pas se méprendre sur ce que je suis en train de dire. Mais c'est vraiment de comprendre sur quoi elle repose. Et on va peut-être revenir à ce qu'on a déjà abordé, c'est que si on lâche cette conception du temps linéaire, si on lâche un peu cette identité, hein, quand on est dans cette présence, qui a juste ça, ça peut être expérimenté de plein de manières. Mais fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans cette expérience de l'ordre du vide. Vous avez vu quand on est assis en méditation, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On part dans les pensées. Pourquoi on fait ça? Ok, il y a l'habitude, il y a tout ce qu'on a expliqué déjà, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être sous-jacent aussi cette nécessité, ce besoin de remplir une certaine forme de vide? Parce que dans cette rencontre avec la fleur, le moi-je, il est où? Vous avez vu en méditation, surtout en méditation, peut-être dans la vie de tous les jours, mais je trouve que c'est tellement grossier en méditation, hein, c'est comme si on était dépendant à ce qui n'est pas là. Ah, j'aimerais bien avoir un thé. Ah, puis le petit morceau de pomme et le bon chai tout à l'heure. Ah, puis ah bah, peut-être, tiens, ça ira mieux dans la marche. Ah, puis il y a plein de pensées. Tiens, tout à l'heure, il y en aura peut-être moins. Et puis tout à l'heure, c'était beaucoup mieux. Et on n'est pas habitué à rester sans faire exister cette identité construite. Hier, je crois, ou hier matin, quelqu'un posait la question, mais cette présence, je la touche du doigt, mais comment on fait pour rester là? C'est que c'est un espace qui demande... de se familiariser avec, je dirais. Au départ, ce qu'on risque de contacter, c'est une espèce de sensation de vide. Mais en fait, même cette sensation de vide, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'illusoire? C'est que simplement, ce qui s'effondre à ce moment-là, hein, c'est cette identité construite, moi-je. C'est que d'un seul coup, il y a la possibilité que ça se dissolve, hein, où ça devienne plus poreux. Et si on reste là, ce qui risque de se produire, possibilité hein, qu'il y ait un peu de peur, un peu d'inquiétude, parce que il y a cette menace de disparaître d'une certaine manière. Peut-être pas, des fois ça se passe sans problème, mais de savoir qu'il peut aussi y avoir cette contraction, cette sensation de peur. Et c'est véritablement de voir que dans cet espace-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Et c'est même pas qu'il n'y a rien à faire. C'est que dans cette rencontre-là, le faire, ça n'a même plus de sens. Ça n'a plus de sens. Hein, quand l'espace entre le sujet qui perçoit et l'objet se ferme, il n'y a plus d'espace pour faire fabriquer un passé, il n'y a plus d'espace pour fabriquer un futur. Et donc de voir, là, on va commencer à toucher du doigt cette illusion, quoi, de contrôler, de séparer, de faire une distinction entre moi, le monde, entre, comme je le disais, le sujet, l'objet, hein, pour que tout ça, ça existe, ça demande de faire exister ce temps linéaire. Mais en même temps, ça nous met peut-être en présence de l'illusion qui va avec. Encore une fois, d'apprendre à noter ce besoin de toujours qui j'étais, qui je suis, qui je serai. Alors, c'est peut-être pas si évident, hein, c'est pas quelque chose qu'on se répète toute la journée. Mais quand on commence à observer le contenu de nos pensées, les histoires qu'on se raconte, hein, la plupart du temps, on essaie en fait de répondre à ces questions-là. On est toujours dans la tentative d'essayer de se rassurer. Ah, je suis là, c'est moi. Et encore une fois, ce moi construit, pour exister, il a besoin de cette linéarité, de cet espace-temps, d'un passé, d'un présent, d'un futur. De voir aussi que quand cette illusion du temps, elle s'effondre, elle se dissout, eh ben on va voir que ce qui accompagne ça, c'est une cascade de choses. Par exemple, le jugement va s'effondrer, comme je le disais tout à l'heure, le contrôle va s'effondrer. Vous allez voir que le doute hein, qui nous habite la plupart du temps va s'effondrer. Généralement, ce qui s'effondre aussi, c'est la confusion. La résistance aussi, le fait de résister aux choses, de résister à une émotion. D'une certaine manière, c'est pas une certitude, mais c'est un peu un ressenti personnel. J'ai l'impression que finalement, pour souffrir, on a besoin du temps. Mais apprendre avec des pincettes. Pas sûr de ce que je dis là, mais c'est en tout cas une sensation qui m'habite assez fortement. Donc voilà, tout ce blabla pour essayer de décortiquer encore une fois de sur quoi repose ce sens de l'identité. Et vraiment peut-être de garder en mémoire que dans ces espaces sans pensée, le temps disparaît. Et malgré tout, hein, on a cette sensation, quand on pense, hein, on a vraiment l'impression que c'est réel. Ça, c'est mon histoire. C'est mon histoire. J'étais là hier. Mes parents, ils étaient comme ça avec moi. Et puis demain, j'ai la certitude que je serai là-bas. Alors qu'en fait, quand on est dans le contact, dans cette intimité, ici, maintenant, le flot du temps, il est, on ne peut plus le distinguer, on ne le distingue plus. On a même l'impression, j'ai envie d'aller plus loin, on a même l'impression que dans cet espace-là, hein, le Bouddha nous a enseigné la loi de l'impermanence, de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Quand on est dans cet espace, hein, où le passé se dissout, où le futur se dissout, on peut même faire l'expérience qu'à ce moment-là, il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de vieillesse, il n'y a plus de mort. Mais ça, encore une fois, ça peut être très théorique, c'est à chacun d'aller voir par soi-même si c'est l'expérience qu'il fait ou pas. Donc simplement, c'est vraiment quelque chose avec lequel on peut se familiariser, d'apprendre à regarder ce qui est là. Mais d'apprendre à regarder ce qui est là quand le temps n'est pas là. Être curieux, s'amuser. Et puis ça, je continuerai demain. Je pense qu'on fera une méditation guidée là-dessus. C'est peut-être de s'inviter, d'aller... Là, j'introduirai une pratique du zen coréen. On peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui est conscient là maintenant? Qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui est conscient là, d'entendre cette voix? Qu'est-ce qui est conscient de bouger la main? Qu'est-ce qui est conscient de voir? Qu'est-ce qui est conscient d'être là? C'est qui qui est conscient là, ici, maintenant? C'est qui? Et là, il y a deux options, mais on verra ça demain. Hein. C'est soit on part tout de suite dans l'élaboration de méga théories sur l'existence, ou alors on reste et on s'ouvre à cette sensation de mystère. Pour terminer, simplement de voir que, est-ce qu'on peut laisser cet espace voir pour nous, le laisser prendre soin de nous, le laisser prendre soin des choses. Je vais répéter ma petite phrase de Lipo. Nous nous sommes assis, la montagne et moi, jusqu'à ce que seule la montagne demeure. Est-ce que ça veut dire que je cesse d'exister, ou c'est simplement une identité construite qui s'effondre à ce moment-là? Est-ce que je continue à voir et à transporter cette illusion que si je n'existe plus à travers mes pensées, je n'existe plus tout court? Ou alors, est-ce qu'à ce moment-là, je commence véritablement à goûter à ce que veut vraiment dire être vivant? simplement rester quelques secondes en silence.